À l'occasion des Journées nationales de l'ingénieur et de la Journée mondiale de l'ingénierie pour le développement durable, l'Université de technologie de Compiègne a organisé 3 conférences pour mettre en lumière des parcours engagés au service de l'ingénierie soutenable. Graphite s'associe à cette démarche en vous proposant de réécouter ou de découvrir en séance de rattrapage l'ensemble de ces conférences. Pour la 3e et dernière de cette série, Thierry Ribeiro et Olivier Scouf, enseignants-chercheurs au génie des procédés, proposent des réponses à la question suivante. Comment lier recherche technologique à l'UTC et enjeux environnementaux ?
Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là pour cette 3e et dernière conférence organisée par l'UTC à l'occasion des Journées nationales de l'ingénieur et de la Journée mondiale de l'ingénierie pour le développement durable. Lundi dernier, on a parlé d'éco-conception avec Victor Théry, qui est un alumni de l'UTC, diplômé en 2016. Hier, Quentin Duchemin est venu nous présenter Picasoft et les enjeux du numérique auxquels tente de répondre cette association, et nous a parlé aussi d'engagement étudiant. Et on clôture cette semaine avec Olivier Scouf et Thierry Ribeiro, qui sont tous deux enseignants-chercheurs au sein du génie des procédés et qui vont tenter de répondre à cette question: comment la recherche technologique de l'UTC peut-elle se préoccuper d'enjeux environnementaux? Comment est-ce qu'elle peut être engagée? Et je vous laisse la parole, à vous.
Merci Valentin. Donc on va commencer par se présenter tous les deux. Merci d'être venus. Donc, je m'appelle Olivier Scouf, je suis enseignant-chercheur au département génie des procédés industriels depuis 2003 et je suis directeur du département du génie des procédés industriels. Et j'évolue dans l'unité de recherche transformation intégrée de la matière renouvelable. Donc, de formation, je suis un ingénieur en procédés. À l'époque, ça s'appelait le génie chimique, maintenant ça s'appelle le génie des procédés. Donc j'ai fait ma formation à Toulouse et puis ensuite j'ai fait un master et doctorat sur les bioprocédés environnementaux à Montréal, à l'École Polytechnique de Montréal. Donc je travaillais sur la décontamination des sols pollués par des hydrocarbures. Donc à l'époque je travaillais déjà sur la partie environnementale et puis ensuite j'ai fait un post-doctorat en Belgique où j'ai travaillé sur la dépollution des eaux usées. Donc voilà, j'étais toujours dans la partie traitement. Et puis j'ai intégré l'UTC en 2003 en tant que maître de conférence et j'ai poursuivi dans un premier temps mes travaux dans la dépollution des sols. Et puis petit à petit, mes activités de recherche ont évolué vers l'utilisation toujours des bioprocédés, donc l'utilisation des micro-organismes, mais pour transformer la biomasse, qu'on appelle la biomasse, donc la matière renouvelable, pour faire des molécules, des matériaux, etc., qui substituent le carbone fossile. Et puis, donc, j'ai, dans les toutes dernières années, depuis 2019, je développe un axe sur la méthodologie d'ACV, donc l'analyse du cycle de vie. Donc, voilà pour mon parcours.
Très bien Olivier, bonjour à toutes et à tous. Donc moi je m'appelle Thierry Ribeiro, je suis enseignant-chercheur également au sein de TIMR, la même unité que celle d'Olivier, et rattaché au département génie des procédés industriels. Donc moi mon parcours il est en sinusoïde, parce qu'en fait j'ai connu l'UTC au moment de ma thèse en 98, j'ai eu un contrat de postdoc, je suis parti au moment où Olivier est arrivé, il ne faut pas y voir de relation, et puis je suis revenu récemment sur un poste de professeur en septembre 2024, et entre-temps, j'ai exercé en tant qu'enseignant-chercheur à Uni-la-Salle, donc une école d'ingénieurs en agriculture à 60 km d'ici, sur un sujet qui était en lien avec les bioprocédés et la méthanisation, avec un gros volet, je dirais, agronomie, et un volet quand même aussi procédés et production de biogaz. Moi, mon parcours, il est un petit peu différent de celui d'Olivier. Je suis universitaire de formation. J'ai une licence, à l'époque, ça s'appelait encore comme ça, licence et maîtrise de biochimie, complétée par un DEA, le DEA génie enzymatique, bioconversion microbiologie, qui était porté par l'UTC et l'UPJV à l'époque. J'ai poursuivi par une thèse en GPI, donc de 98 à 2001, et puis un contrat européen, où d'ailleurs on s'est connus ensemble sur ce projet EOLI, qui traitait d'effluents liquides avec des contaminations. C'était un projet qui était et européen et avec une action de soutien à différents pays comme l'Uruguay et le Mexique. Donc voilà un petit peu pour le parcours. Moi, mes activités de recherche, elles sont essentiellement tournées sur la valorisation de la biodiversité, biomasse pour des bioénergies, pour des vecteurs énergétiques comme le méthane, mais également ça peut être l'hydrogène. Et puis on regarde ça sous un angle optimisation des procédés, développement de nouveaux procédés avec souvent des acteurs socio-économiques du territoire. Et puis toujours une sensibilité agronomique. Et de ce fait, on a un partenariat avec l'Unilassal qui reste constitué puisqu'il y a un groupement d'intérêts scientifiques qui existe entre les deux établissements. Et donc on mène nos activités de recherche conjointement depuis 2007-2008. Sur cet axe.
Ok, alors Thierry, du coup, tu parles de méthanisation. Est-ce que tu pourrais nous dire ce que c'est un petit peu la méthanisation, puis quels sont les enjeux dans le contexte du développement durable ?
Oui, on va essayer de faire ça, de vulgariser, mais pas trop quand même, parce que voilà, on reste quand même sur de l'ingénierie et on est au sein d'une école d'ingénieurs, et donc on peut parler technique, on peut parler science, on peut rentrer dans le vif du sujet, dans le dur. Donc la méthanisation, c'est tout simplement un procédé naturel qui est maintenant, je dirais, maîtrisé par l'homme sous un angle en fait de production d'énergie. Mais pas uniquement, parce qu'en fait, dans le procédé de méthanisation, qui est un bioprocédé, puisqu'il est, réalisé sous l'action d'une communauté microbienne, quand on parle de communauté microbienne, il faut imaginer 400 à 450 espèces microbiennes différentes qui vont intervenir et qui vont dégrader la matière organique en biogaz et en digesta. Donc le biogaz, il va être majoritairement composé de méthane et de dioxyde de carbone, et donc on va voir par la suite qu'on peut réutiliser les deux. Mais on va aussi récupérer une part non digérée ou partiellement digérée par les micro-organismes. C'est ce qu'on appelle le digesta et qui va servir d'amendement pour un retour au sol. Et donc ça, c'est vraiment intéressant parce que c'est un procédé qui est complémentaire dans son approche, aussi bien d'un point de vue, valorisation énergétique et valorisation agronomique. Donc c'est un processus par contre qui est particulier parce qu'il se réalise en absence d'oxygène, il est anaérobie. Donc on parle de méthanisation, parfois on parle de digestion anaérobie. Et c'est un procédé qui existe naturellement, comme je le disais tout à l'heure, au sein notamment de tractus digestifs d'animaux, typiquement les ruminants, avec le rumen, une des quatre cavités stomacales chez les bovins, on a ce phénomène de méthanisation qui intervient. Pour un éleveur bovin, son intérêt, c'est d'essayer de minimiser les émissions de gaz au moment de la physiologie réalisée par l'animal. Et ça contribue d'ailleurs à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, parce que l'élevage est le deuxième contributeur des émissions de GES au niveau mondial. Donc son idée, lui, ça va être plutôt de les minimiser et de maximiser la ration alimentaire qui va être fournie à l'animal pour produire du lait, par exemple. Alors que nous, d'un point de vue, procédé environnemental, l'idée, ça va être au contraire de maximiser la production de méthane. Donc là, il y a des leviers, à trouver en termes de pilotage qui sont assez intéressants. Donc la méthanisation est un procédé naturel, c'est un processus maintenant industriel qui est maîtrisé depuis pas mal de temps. Les premières applications datent de la fin du 20e siècle, fin 19e, début 20e siècle, avec des productions de gaz pour se faire à manger ou pour de l'éclairage public. 1922, ville de Birmingham, l'éclairage public, c'est de l'éclairage au méthane issu de digestion anaérobie. Et le gaz est acheminé par canalisation à des becs de gaz, des becs de réverbère, et l'éclairage public va être géré de cette manière-là. Et donc on a, domestiqué cette énergie, et maintenant on la retrouve assez fortement implantée dans le mix énergétique, et c'est un très bon contributeur, à la substitution des gaz fossiles, puisque quand on fait du biométhane, le méthane issu de processus biologiques, c'est un méthane qui est totalement miscible, compatible avec le méthane qui est déjà dans nos canalisations et issu, de la fossilisation de matière organique. Donc là, on a un processus qui va être très présent sur le territoire. On a un petit peu moins de 2000 méthaniseurs en France. 80% sont des méthaniseurs agricoles. Et on va donc gérer les ressources présentes sur le territoire. Donc ça s'inscrit parfaitement dans les concepts de bioéconomie et d'économie circulaire. Et donc on va récupérer des matières organiques, on va rendre un service puisqu'on va traiter, entre guillemets, des déchets sur le territoire. Et on va aussi proposer une production d'énergie et un retour au sol pour ensuite amender les sols sur les exploitations agricoles qui cultivent des cultures. Donc ça, c'est vraiment intéressant parce que c'est un très bon pilier, je trouve, au niveau de la substitution et de la... Alors, je ne sais pas s'il faut dire défossilisation, décarbonation, Parce que si on décarbone, nous, si on se décarbone, on n'a plus de carbone au squelette, donc c'est un peu gênant. Donc on va peut-être plutôt dire défossilisation, donc au niveau des ressources. Et on a quelque chose voilà, qui est maîtrisé. Alors évidemment, il y a encore des enjeux de recherche, et c'est aussi pour ça que des établissements comme les nôtres travaillent sur ces sujets. Mais ces enjeux d'avenir, vous avez une étude qui a été éditée par l'ADEME, GRDF et GRT Gaz. GRDF et GRT Gaz sont les deux opérateurs de distribution et de transport du gaz, qui demande, en posant la question toute bête, est-ce qu'à l'horizon de 2050, on peut substituer le 100% du gaz fossile dans nos réseaux? Et en fait, la méthanisation va être un pilier, un contributeur à hauteur de 30%, à la même hauteur que la pyrogasification suivie de méthanation et également le power to gas avec la conversion de l'électricité en hydrogène avec l'électrolyse de l'eau et puis retour par la méthanation là encore avec combinaison H2-CO2 pour reformer du méthane. Donc on a vraiment là une solution technique idéale pour à la fois produire de l'énergie, et puis j'insiste, hein, mais aussi ramener de la matière organique sur les sols, parce que c'est important de ne pas exporter tout le temps non plus cette matière. Donc on a vraiment des enjeux de territoire, des enjeux de société, et ça s'inscrit pleinement dans la transition énergétique et environnementale que nous avons amorcée, je dirais, au niveau du pays, maintenant depuis une bonne vingtaine d'années. Alors, ça, c'était, je dirais, la présentation méthanisation. Quand on s'intéresse à de la bioéconomie et de l'économie circulaire, on est intéressé aussi à faire des bilans, de regarder si le procédé que l'on met en place et qu'on soutient, il est acceptable. Et on a notamment des méthodologies qui permettent de faire ça. Et tu l'as mentionné tout à l'heure en mettant l'accent sur un des sujets que tu mènes au niveau de tes travaux, c'est l'ACV. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Qu'est-ce que c'est? En quoi ça consiste? Et quel va être le lien qu'on peut faire entre ACV et ingénierie soutenable?
Oui, alors du coup, l'ACV, alors certains le connaissent peut-être, hein, c'est l'analyse de cycle de vie, c'est une méthodologie d'évaluation des impacts environnementaux qui est assez exhaustive, puisqu'elle va s'intéresser à tout type d'impact. Alors vous en connaissez un, hein, on entend tous les jours parler du réchauffement climatique, alors c'est un impact, mais en fait il existe une quinzaine d'autres impacts sur l'environnement, hein, comme l'acidification des océans, comme l'eutrophisation, la toxicité humaine, etc. Donc on a différentes catégories, et donc l'ACV va s'intéresser déjà à tout type d'impact. Donc c'est exhaustif dans ce sens-là. Et puis, elle va s'intéresser aussi à toutes les étapes du cycle de vie, comme son nom l'indique, c'est-à-dire depuis l'extraction des matières premières jusqu'à la fin de vie, donc en passant par les procédés de production, les procédés de distribution, les procédés d'utilisation et les procédés de fin de vie. Alors la fin de vie, hein, ça peut être de la valorisation énergétique, ça peut être du recyclage, ça peut être du traitement, hein, si on parle d'un résidu ultime où on peut plus, qu'on peut plus valoriser. Et donc, du coup, cette méthodologie exhaustive permet de détecter d'éventuels problèmes de ce qu'on appelle des déplacements d'impact, c'est-à-dire, en fait, trouver des fausses bonnes solutions. Alors, je vais citer un exemple. Hein, je ne dis pas que c'est une mauvaise solution, hein, mais si on parle de la voiture électrique par rapport à la voiture conventionnelle, en fait, on résout des problèmes, puis on en crée d'autres. Alors, des fois, les problèmes concrets sont moindres que les problèmes qu'on résout. Mais enfin, la question se pose. Hein, tout simplement, quand on a une voiture électrique, on résout le problème de la pollution au moment de son utilisation, puisqu'on n'émet pas de CO2, contrairement à une voiture conventionnelle. En revanche, ben, vous savez que pour produire une voiture électrique, il faut produire une batterie. Et du coup, le coût environnemental de fabrication de la voiture électrique est plus élevé que le coût de fabrication d'une voiture conventionnelle. Donc ça, c'est un premier déplacement d'impact. Donc on va dire donc d'une étape du cycle de vie, l'utilisation, à l'étape une autre étape du cycle de vie qui est la phase de fabrication. Et puis là, un autre type de déplacement d'impact, c'est d'une catégorie d'impact à une autre. Donc quand on a une voiture électrique, en effet, sur le cycle de vie, on va voir. Alors ça dépend des scénarios, mais en général, on a une diminution des émissions de CO2, donc une diminution des impacts sur le réchauffement climatique, à condition que le mix énergétique soit aussi propre. Donc il y a un bémol aussi à faire. Mais en effet, on peut résoudre le problème du réchauffement climatique avec les voitures électriques. En revanche, quand on a une voiture électrique, eh bien, on extrait des métaux, plus de métaux que pour une voiture conventionnelle, et du coup, ben, on contribue à l'épuisement des ressources naturelles. Donc là, c'est un déplacement d'impact d'une catégorie d'impact à une autre. Donc là, la CV est assez intéressante pour ça, parce que ça permet de vraiment faire une évaluation exhaustive. Alors, c'est une ACV, c'est quand même une méthodologie qui est pas encore parfaite. Hein, ça fait encore l'objet de recherches, parce que c'est assez complexe. Et puis, on est confronté à des problèmes d'opérationnalité de la méthodologie. Alors, ce que je dis pour la partie environnementale, eh bien, elle existe aussi pour la partie sociale et économique. Et quand on peut faire une ACV économique, donc on va faire une étude des flux monétaires, et puis on peut faire aussi une ACV sociale, qui est une ACV quantitative et semi-quantitative et qualitative des impacts sociaux d'un scénario, toujours pareil, depuis l'extraction des matières jusqu'à la fin de vie. Et donc, cette méthodologie-là est importante parce qu'on peut inventer la meilleure technologie qui soit, dont la méthanisation, mais si on ne l'intègre pas dans un scénario, eh bien, en fait, on peut résoudre un problème au niveau du procédé et puis, en fait, déplacer le problème ailleurs. Et donc, du coup, mes recherches, ça concerne l'étude de ces scénarios-là. Et pour prendre un exemple, je vais prendre un exemple d'un projet que je suis en train de mener avec mon collègue Frédéric Huette, qui est économiste et qui travaille au département TSH et dans l'unité de recherche COSTEC. On a un projet de recherche en partenariat avec l'agglomération régionale de Compiègne et le SMDO, l'organisme de gestion des déchets sur une bonne partie de l'Oise. Et c'est un projet qui est financé par la région Hauts-de-France. Donc, en quoi ça consiste? Vous avez peut-être entendu parler de la loi AGEC et vous avez peut-être entendu parler du fait que depuis le 1er janvier 2024, toutes les collectivités locales, les municipalités, doivent proposer à leurs citoyens une solution de tri et de valorisation à la source de leurs biodéchets. Donc, normalement, je ne sais pas si vous le faites, mais tous vos pots de bananes, épluchures, etc., vous ne devez plus les mettre dans la poubelle noire ou grise, mais vous devez avoir une poubelle, un seau à part, et la municipalité doit vous mettre une solution en face, qui peut être simplement de faire du compostage à la maison, de faire du compostage partagé, ou de collecter et de transporter les déchets dans une unité de valorisation industrielle. Et là, c'est là que le « ou » pose un problème, c'est-à-dire qu'est-ce qui est le mieux d'un point de vue environnemental, économique et social? Est-ce que c'est mieux de faire une gestion décentralisée des biodéchets, c'est-à-dire est-ce qu'on laisse le soin aux citoyens de valoriser leurs propres biodéchets? Ce qui a un avantage, c'est qu'on n'a pas de coût de collecte et de transport des biodéchets vers une unité industrielle. Donc ça, c'est quand même pas mal. Donc un coût non seulement économique, mais environnemental, puisque les camions ou les trains qui transportent ces matières-là vont avoir un impact environnemental. En revanche, le compostage individuel, n'aboutit pas à des produits à haute valeur ajoutée. Même dans certains cas, on s'en rend compte dans notre projet que le compostage, des fois, ça ressemble plus à un tas de terre au fond du jardin qu'à un procédé. Et on peut avoir éventuellement des impacts qui ne sont pas négligeables, puisque un compost mal aéré, au lieu de produire du CO2, va produire du méthane, qui a un impact 28 fois supérieur à celui du CO2 en termes de réchauffement climatique. Et puis, et s'il est trop aéré, des fois, on a même un problème parce qu'on peut produire du N2O, du protoxyde d'azote, qui est 265 fois plus impactant que le CO2. Donc, vous voyez qu'en fin de compte, c'est pas si le compostage, ça paraît un procédé très facile à faire et puis très simple et puis idéal, mais on s'aperçoit que dans la pratique, on peut avoir des impacts qui soient significatifs. Alors, de l'autre côté, on a la collecte et puis le transport et la valorisation industrielle. Donc là, avec l'inconvénient d'avoir un coût environnemental lié à au transport et un coût économique, évidemment. Par contre, Dans un procédé industriel comme la méthanisation, hein, mais aussi le compostage industriel, eh bien là, on peut mieux contrôler le procédé, donc mettre des conditions d'opération pour minimiser les impacts environnementaux et avoir en plus des produits à plus haute valeur ajoutée. Donc on parlait du biogaz, hein, qui peut substituer le méthane fossile. On peut faire du compost de qualité qui répond à certaines normes et qui peut être utilisé en agriculture ou en horticulture, etc. etc. Donc vous voyez que, ben, en fin de compte, on voit qu'il y a, en faisant simplement cette réflexion qualitative, on n'a pas un scénario qui paraît idéal. Et du coup, ben, l'ACV permet de faire cette évaluation et de prendre des décisions à la fin sur des éléments relativement objectifs. Et cette évaluation, ben, peut se faire d'un point de vue environnemental, économique et social, parce que ça, c'est très important. Et je dirais primordial pour le traitement des déchets, c'est-à-dire que le premier acteur pour les scénarios de traitement des déchets, c'est le citoyen. C'est-à-dire que vous pouvez inventer votre meilleur scénario d'un point de vue économique et environnemental. Si le citoyen, au départ, il dit bah, « non, je ne trierai pas mes déchets », ça ne marchera pas. Et donc, du coup, il faut prendre aussi en considération la dimension environnementale. Donc voilà à peu près ce que fait l'ACV et comment nous, on le traite dans nos recherches.
Oui, donc finalement, on n'a pas forcément une seule réponse unique à chaque fois. On peut avoir aussi des couplages entre des différents procédés. On n'est pas obligé de choisir une seule voie de valorisation. On peut avoir des choses qui cohabitent sur un même territoire. Et l'ACV va être capable aussi de pouvoir faire cette analyse fine, j'imagine.
Voilà, tout à fait. En termes de solutions, en fait, il n'y a pas que les deux scénarios extrêmes que je vous ai cités, mais il peut y avoir des scénarios hybrides où, par exemple, dans un milieu urbain dense, eh bien, on va pouvoir peut-être collecter plus facilement, donc ce sera peut-être plus rentable de collecter. Et par contre, dans un milieu rural, plutôt privilégier d'une gestion décentralisée par du compostage de proximité ou individuel, en accompagnant les citoyens à bien faire leur compostage. Donc vous voyez qu'il y a plusieurs scénarios qui peuvent être évalués. D'accord. Voilà, voilà un petit peu, donc vous pourrez nous poser des questions, mais après, Thierry, est-ce que tu peux nous dire comment les étudiants peuvent en savoir un peu plus sur ce qu'on fait ? Ils sont peut-être intéressés à voir.
C'est vrai que le chercheur, souvent, on a l'image du chercheur savant fou avec la blouse blanche dans le labo et on voit pas trop ce qu'il fait. Et puis on a souvent son enseignant en amphi ou en salle de TD et on se dit, tiens, est-ce qu'il fait autre chose en dehors de ses heures de cours ? Bah oui, il fait autre chose. Et le moyen de diffuser, je dirais, les activités et de faire connaître ce qui est fait dans les labos, bah, ça peut prendre différentes formes. Alors il y a évidemment déjà, mais on en reparlera après, je pense, au travers de la formation, avec des illustrations qui peuvent être prises et qui servent de support, je dirais, au travers de nos UV. On peut déjà en lister quelques-unes, BL16 par exemple, EV1, TF72, il y a des choses voilà, qui vont reprendre et on va s'appuyer sur ce qui est fait dans les labos et sur les projets de recherche. Alors ça, je dirais, c'est le premier niveau, mais après, il y a aussi de la diffusion qui est autre par rapport à la formation initiale. Ça peut être des manifestations... Déjà simplement au niveau de l'établissement, je pense aux nuits de la recherche qui ont eu lieu et qui ont été remises en place, parce que ça fait un petit moment que ça n'avait pas été mis en place et je trouve que c'est une très belle initiative de mettre ça en avant et de faire venir les élèves dans les labos, de voir ce qui s'y passe. Et c'est un moment de pouvoir partager, d'échanger, de visiter les plateformes, de voir discuter avec les chercheurs, les doctorants et les doctorantes aussi qui mènent ces travaux. Donc ça, c'est une première possibilité. On a la fête de la science aussi qui est organisée. Alors là, pour le coup, c'est un rayonnement plus grand, parce que c'est national. On va avoir toutes les activités qui peuvent aussi... c'est ce qu'on fait aujourd'hui hein, en termes de diffusion à l'initiative de ces journées JNI. Des travaux aussi de groupe ou travaux individuels qui peuvent être menés au travers de TX, de PR, de stages aussi. Si vous êtes intéressés les uns et les autres par ces sujets, n'hésitez pas à contacter vos enseignants et solliciter. Il y a souvent des stages. D'ailleurs, toi-même, tu accueilles en ce moment une élève ingénieure au sein du labo sur un sujet en lien avec la CV. Bon, tu n'en accueilles pas qu'une, mais une de l'UTC. Et puis, on a, toutes les manifestations aussi qui peuvent être des salons professionnels, des manifestations locales. On a, comme tu le rappelais, des financeurs qui peuvent être la région ou l'ARC, eh bien, on est aussi sollicité pour promouvoir les activités de recherche. Et quand il y a des manifestations qui peuvent être un forum ou un salon professionnel, ben, on va être aussi présent et on va encourager nos élèves aussi à y participer, de pouvoir prendre de l'information, échanger. C'est vraiment extrêmement intéressant. Et puis, j'ai peut-être un dernier niveau aussi, c'est les visites qui sont proposées aussi. Là, on a, dans le cadre de V1, pour reprendre cette UV, des visites qui sont prévues sur une plateforme de compostage et un site de méthanisation. Donc, on va aller à Monchy-Lumière pour le site de compostage, et puis à Coudun pour le site de méthanisation. Alors, je pense que quand vous prenez la route en ressortant après Marny, vous voyez des dômes un petit peu particuliers, des champignons, là. C'est l'unité de méthanisation de Coudun qui est présente et qui va collecter des sous-produits agricoles, là, pour le coup, et qui va valoriser ça en méthane et réinjecter dans le réseau, ça en local, et donc ça va bénéficier, je dirais, au territoire. Donc voilà pour, je dirais, un peu expliquer les activités, comment on peut y venir, comment on peut diffuser la connaissance et transmettre. Je pense qu'on est clairement dans notre mission de service public en faisant ce genre de choses. Alors, bon, on a parlé un peu formation, ça va être l'occasion peut-être de te relancer sur ce sujet. Qu'est-ce que l'on a, nous, ouais, comme offre au sein de l'établissement? Alors, porté par le département, mais pas que, puisqu'on a des UV qui sont proposés à l'ensemble des élèves. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus?
Oui, parce que tout à fait, on est enseignant-chercheur, et donc on a une partie d'enseignement et une partie de recherche. Et évidemment, tout ce qu'on fait en recherche, eh bien, ça se décline au niveau de la formation, et en particulier au niveau des filières de nos différentes formations. Alors, en génie des procédés, alors souvent on dit qu'est-ce que c'est que le génie des procédés. Alors, j'espère qu'aujourd'hui, à travers les exemples qu'on vous a donnés, vous savez un petit peu plus. Hein, donc, on s'intéresse à la transformation de la matière et de l'énergie. Et puis, on a des filières qui sont vraiment tournées vers la transition environnementale. On a une première filière sur l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables. Donc, je pense que le nom de la filière parle d'elle-même. Une autre qui va s'intéresser à transformer la matière pour substituer le carbone fossile, parce que, en fait, si vous regardez tout autour de vous, que vous soyez chez vous ou ici, il y a beaucoup de choses qui est faite à partir du pétrole, beaucoup de matière qui est faite à partir du pétrole, donc du carbone fossile, et la seule alternative au carbone fossile pour faire de la matière, c'est le végétal. Donc, du coup, la transformation du végétal, elle est fondamentale pour remplacer les molécules, les matériaux qui viennent du fossile. Et donc, c'est un enjeu hyper important. Et puis, notre troisième filière, c'est une filière éco-conception et sécurité des procédés. Donc, c'est une filière un peu plus systémique, où justement, là, on va s'intéresser aux impacts environnementaux, aux risques industriels. Donc là, on va prendre un petit peu de la hauteur par rapport aux procédés. On va regarder le scénario dans son ensemble et on va faire plus de l'éco-conception de procédés. Puis, on a une petite dernière filière qui paraît un petit peu à côté des enjeux, mais pas si éloigné que ça. On a une filière en pharmaceutique et cosmétique, qui se passe en partenariat avec un institut à Tours. Et en fait, ça paraît éloigné du développement durable, mais en fait, il faut se rendre compte que cette demande industrielle, elle vient du fait de la relocalisation de l'industrie du médicament. Elle s'intègre aussi dans tout ce qui est économie circulaire, puisque on produit là où on en a besoin. Et puis, les industries pharmaceutiques et cosmétiques sont confrontées à un enjeu majeur, c'est la gestion de l'eau. C'est des entreprises qui ont besoin de beaucoup d'eau, de lavage, et les normes sont très strictes pour la réutilisation de l'eau, de sorte qu'actuellement, ils ne peuvent pas réutiliser dans leurs procédés des eaux qu'ils ont déjà utilisées. Et donc, ils sont fortement consommateurs d'eau, donc ils travaillent beaucoup sur la purification des eaux, le traitement des eaux pour pouvoir le réutiliser dans leur procédé. Donc, vous voyez, c'est une filière qui n'est pas si éloignée que ça. Et donc, du coup, ces filières-là, elles sont très alimentées par ce qu'on fait en recherche, bien entendu, par nos compétences qu'on développe en recherche. Donc voilà, il n'y a pas que au génie procédé qu'on fait de l'environnement. Et évidemment, hein, dans tous les départements de l'UTC, il y a une composante environnementale qui est hyper importante. Il y a une prise de conscience dans tous les génies.
C'est du transverse.
C'est vraiment du transverse. Le génie procédé, moi, je pense qu'on est au cœur du sujet. Voilà. Je pense qu'on a assez parlé, non ?
Oui, on peut laisser la place à quelques questions. J'imagine qu'il va y en avoir, en tout cas j'espère.
Comment se passent vos recherches? Est-ce que c'est beaucoup des expériences en laboratoire ou autre?
Alors pour répondre à ça, on a différentes échelles en fait. Ça peut très bien être du laboratoire, à l'échelle paillasse. Ça peut aussi parfois être du travail sur logiciel, hein, avec de la simulation ou par rapport à une approche ACV. Je pense qu'Olivier en parlera bien mieux que moi. Ça peut déjà être ce niveau-là. Ça peut être de l'échelle pilote de laboratoire déjà un petit peu plus conséquent. On peut commencer à travailler des choses de l'ordre de la dizaine à la centaine de litres. Et puis après, on peut aussi externaliser les travaux avec des partenaires, les acteurs socio-économiques. On peut aller jusqu'à du pré-industriel, voire de la taille réelle. On a eu des travaux, notamment en méthanisation, qui ont adressé des objets qui pouvaient être des fioles de 500 ml jusqu'à des réacteurs de 4000 m3. Donc c'est et des allers-retours aussi entre les deux. Et donc là, je dirais les effets d'échelle sont extrêmement importants à considérer. Et tout le côté bilan thermique, bilan en matière, etc., va prendre tout son sens quand on va faire des choses à petite échelle et aussi bien à grande échelle.
Y a-t-il des enjeux ou des projets qui sont en place concernant les PFAS, les polluants éternels?
Alors, au niveau de l'établissement, on commence à avoir des choses qui se mettent en place et vous allez notamment avoir des choses qui vont venir encore plus en détail, je pense, dans les années qui viennent. Typiquement, dans le cadre du projet et du partenariat avec le CIAD, le projet MOCOPÉ et la signature d'une chaire d'enseignement et de recherche entre les établissements avec Sorbonne Université, UTC et le CIAP, on va adresser ce genre de sujet. Parce que c'est extrêmement prépondérant et c'est vraiment des sujets, je dirais, d'actualité et très préoccupant aussi, parce que quand on regarde les niveaux de détection, on en a partout et c'est extrêmement, je dirais, préoccupant, mais il y a des solutions qui se mettent en place. Donc ça peut être des choses qui vont être regardées au travers de ce programme notamment.
Tu peux rappeler ce que c'est que le CIAP ?
Alors le CIAP, c'est le syndicat d'assainissement du Grand Paris. Oui, effectivement, merci. C'est peut-être tellement évident quand on travaille avec eux quasiment au quotidien qu'on jargonne beaucoup avec les acronymes. Oui, donc le CIAP, c'est le syndicat intercommunal d'assainissement du Grand Paris. Et il traite des millions et des millions de mètres cubes d'eau par jour. Et ils produisent aussi des millions et des millions de mètres cubes de gaz, puisqu'ils ont des stations aussi de méthanisation. Donc il y a aussi des travaux avec eux sur ces sujets.
J'avais peut-être une question sur l'étude que vous avez évoquée de l'ADEME et GRDF qui indiquait que la méthanisation représentait 30% de la réponse pour passer le mix de gaz 100% renouvelable. Du coup, je m'interrogeais sur les 70% restants. Quelle est la part des technologies de rupture type pyrogazéification et quelle est la part de la réponse en termes de sobriété aussi? Et après, j'avais une question. Vous avez indiqué que l'effet d'échelle était à considérer dans les projets. Et justement, sur les projets de méthanisation, quelles questions sont posées sur cette question d'échelle? Parce qu'on a l'impression que quand on arrive à des tailles industrielles, on perd beaucoup de sens quand on voit des méthaniseurs à 200 000 tonnes par an d'intrants. On a bien l'impression que c'est dimensionné uniquement par rapport à la production visée d'énergie et pas par rapport au sens que ça fait d'avoir tant d'intrants et puis tant de digestats derrière. Enfin, 200 000 tonnes, c'est difficile à se l'imaginer, quoi.
Je vais répondre déjà pour la deuxième partie. Sur l'aspect gros projet de méthanisation comme celui que vous évoquez, là, il y en a dans le Béarn, on en a en Normandie là, qui est en train de sortir à 120 000 tonnes. Ce sont des projets qui sont portés par des grands acteurs, hein, c'est Total Energy pour ne pas les citer, et qui regardent de très près, je dirais, ce sujet. Alors effectivement, quand on se dit 120 000 tonnes, 200 000 tonnes, c'est des gros projets. Maintenant, ça reste, je dirais, un projet parmi les 2000 méthaniseurs qu'il y a en France. Donc il faut bien voir que la grande majorité des projets en France, c'est plutôt des projets qui vont tourner autour des 20 000, 30 000 tonnes et qui vont vraiment rester sur du local. On va être sur des zones de chalands, on va dire de 30-50 km autour du méthaniseur en termes de collecte et en termes de retour au sol. Il faut bien avoir en tête que, et vous l'avez mentionné, hein, il y a la production de gaz, mais il y a aussi la production de digestat. Et donc il va falloir aussi en faire quelque chose de ce digestat. Donc ces projets-là, Ça fait, à mon sens, partie des réponses qu'on peut apporter, mais ça ne sera pas l'essentiel de la réponse. Pour moi, l'essentiel de la réponse, ça va être de la méthanisation agricole, et c'est déjà le cas avec 80% de la méthanisation qui est portée par des exploitations agricoles. Parce que finalement, la grande majorité des matières qui vont être collectées sont issues de production animale ou production végétale, en première ou deuxième transformation, et on a besoin aussi de ramener de la matière organique au sol pour pouvoir faire perdurer ces exploitations. Et le foncier, il est détenu par les exploitants agricoles. Donc à un moment donné, je dirais que ça a beaucoup de sens que ça reste entre les mains aussi des agriculteurs. Pour autant, ce sont des procédés industriels qui sont sécurisés, propres et sûrs. Alors il y a toujours quelques accidents, évidemment, hein, mais comme on peut l'avoir dans toute activité. Mais on a vraiment, je dirais, une prise de conscience par rapport à ça. Après, oui, des gros projets, ça peut faire peur, mais ça prend, à mon sens, sa place dans le paysage. Et il ne faut pas les opposer, il ne faut pas se dire « on va faire que ça ». Ça peut être bon. Pour la première question, oui, tu voulais compléter peut-être ?
Oui, bah peut-être sur ce point-là. En fait, c'est vrai que maintenant, on cherche du sens à ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'on a un problème de confiance un petit peu hein, sur les gros projets comme ça. On se dit, mais est-ce qu'on a besoin de si gros projets ? Est-ce que ça a du sens ? Est-ce qu'on ne fait pas n'importe quoi ? Est-ce que ce n'est pas tout fait pour l'économique ? Et puis, voilà. Donc c'est des questionnements qui sont évidemment... pertinent. Et justement, je parlais de l'analyse du cycle de vie, ces outils-là, ils permettent de faire une évaluation globale de ces grands projets-là. Et du coup, les décideurs, ils ont accès à ces résultats-là et ça peut les aider à voir si en effet ça a du sens. Et puis si ça a du sens, de pouvoir communiquer sur des éléments objectifs à la population ou aux différents acteurs socio-économiques pour voir en effet ça a du sens. De faire un tel projet aussi gros ou au contraire, non, en fait, faudrait mieux faire des petites unités plutôt dispersées plutôt que faire un gros machin. Voilà, donc du coup, ça, les ACV, là, permettent de donner des billes aux décideurs et puis à la fois pour décider puis pour communiquer sur la solution choisie.
Et puis après, il faut bien aussi se dire que le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Donc la France a choisi un modèle de développement pour la méthanisation qui est la valorisation des déchets en énergie et en amendement organique, mais en considérant l'existant et en se refusant à lancer des productions dédiées. Donc le modèle, par exemple, allemand qui est connu, où on est sur du maïs en silage, maïs énergétique, est cultivé uniquement pour mettre dans le méthaniseur, ça, la France n'a pas souhaité, et le législateur a légiféré dans ce sens en bloquant l'approvisionnement à 16% en culture dédiée dans des méthaniseurs. Et quand on regarde les pourcentages de surfaces agricoles qui sont dédiées, en tout cas dans les Hauts-de-France et dans le Grand Est, ça représente moins de 1% de la SAU, la surface agricole utile. Donc ça reste très très faible. Donc le conflit d'intérêt food versus fuel, comme on peut le considérer assez classiquement, il n'existe pas vraiment en tant que tel. En tout cas, les gens et les porteurs de projets et les pouvoirs publics, ils sont très soucieux, très sensibles. On n'a pas envie de refaire ce que les voisins ont fait. Et donc, on va d'abord essayer de réduire la production de déchets, les minimiser, du réemploi, du réusage. Bien sûr, tout un tas d'autres solutions avec les banques alimentaires, etc., pour tout ce qui est avant que ça devienne des biodéchets. Donc il y a déjà toute cette approche, je dirais, de réduction. Et puis après, s'il y en a, évidemment, on va pouvoir les traiter. Donc ça, c'est une des solutions qui permet de répondre à cette problématique. Après, pour revenir sur la première partie de la question, sur les effets d'échelle, alors évidemment, oui, quand on va faire des choses à 500 millilitres, à 50 litres ou à 4000 mètres cubes, c'est pas du tout les mêmes choses. Ce qui va se poser comme question, majoritairement, c'est des problèmes de transfert de chaleur, les bilans aussi de conversion, et puis les aspects, je dirais, de transfert, pour le coup, là, de passage d'un endroit à un autre. Donc tout ce qui va être rhéologie, tout ce qui va être hydrodynamique aussi, on va avoir ça. Donc c'est un mélange quand même complexe hein, au sein d'un méthaniseur. C'est à la fois des solutions, des suspensions et également des phases gaz. Donc il y a tout ça à considérer. Et donc pour pouvoir récupérer ce méthane, il faut qu'il puisse se frayer un chemin entre le moment où il va être produit à proximité des bactéries qui dégradent la matière organique et qu'on le récupère dans notre ciel gazeux. Donc il y a toute cette approche qui va être importante. Et oui, les effets d'échelle sont essentiels à appréhender. Alors parfois, on a eu un projet de recherche à un moment donné qui était à l'inverse. On n'a pas fait du scaling up, on a fait du downscale. On est reparti de la grande taille, on a refait une maquette, mais pas au sens péjoratif, hein, maquette fonctionnelle au labo. Donc c'était un couloir de 30 mètres qu'on a réduit à un couloir de 3 mètres. Donc on a gardé la géométrie, on a gardé les proportionnalités et on a pu travailler et comprendre des phénomènes d'avancement de la matière, d'échange de gaz aussi à l'intérieur entre la phase solide, la phase liquide et la phase gaz externe.
Petite question encore sur les méthaniseurs, vous avez parlé du SIAP. Notamment donc, qui est équipé d'une zone de digestion biogaz. Un des paramètres importants, c'est la sécité des boues bah, pour s'assurer d'avoir des bons rendements de digestion. À l'inverse, je pense qu'il y a d'autres paramètres qui sont néfastes justement à ces rendements-là. Aujourd'hui, vous, dans vos recherches, est-ce que vous essayez de trouver des moyens, entre guillemets, de conditionner, je ne sais pas si c'est le terme approprié, la boue avant, dans le cadre du coup, dans le traitement de l'eau, avant sa digestion, si oui, quels peuvent être ces préconditionnements-là, l'élimination potentielle de polluants, etc.
Alors il y a effectivement toute une étape de préparation de la matière qui peut être considérée. Ça peut être la mise en œuvre de pré-traitement dans certains cas. Il peut y avoir des choses comme les ultrasons ou du traitement thermique. Hein, vous avez des choses avec des détentes instantanées, la DIC. Vous avez ce genre de procédés qui peuvent être mis en œuvre pour préparer et faciliter la dégradation. Alors je dirais que sur des boues, ça se fait plutôt bien parce qu'on est sur des effluents liquides, mais on peut considérer la même chose sur d'autres matières qui vont être beaucoup plus solides. Hein. En fait, il faut voir aussi que dans un méthaniseur, alors le cas du SIAP, c'est quand même majoritairement les effluents qui sont sur les stations d'épuration. Mais par contre, ça peut être aussi en mélange avec d'autres coproduits. Donc ça peut être des choses qui vont être mélangées avec des sous-produits agricoles, des sous-produits issus d'un industrie agroalimentaire. Donc vous allez avoir des granulométries, des tailles complètement différentes. Donc il faut aussi gérer le côté préparation de la matière, du mix. Il ne faut pas que ce soit trop pâteux. Il ne faut pas que ça colmate les pompes. Il ne faut pas que ça bouche. Il ne faut pas que ça flotte non plus trop, parce que sinon ça ne se dégrade pas. Il ne faut pas non plus que ça sédimente, sinon au bout d'un an, il faut curer le méthaniseur. Enfin bon, voilà, il y a toute cette approche qui est importante. Et on a effectivement des approches de ce type-là pour travailler sur des boues, comme vous l'évoquez. Et le SIAP est très sensible à ça, parce que c'est le premier producteur de boues en France. Hein. Donc c'est extrêmement important pour eux de gérer leur filière et d'avoir des process qui soient fonctionnels. Et donc là, en ce moment, sur certains sites, ils sont en train aussi de basculer. Ils avaient des méthaniseurs qui fonctionnaient en conditions mésophiles, donc 37-40 degrés, et ils sont en train de les basculer en thermophiles, donc on sera à 55 degrés, ce qui fait qu'avec cette température de process, on va optimiser, on va maximiser la conversion de la matière organique en méthane.
Une demande de précision sur une question précédente.
Merci pour les éléments de réponse sur la deuxième question. Sur la première, c'était sur l'étude ADEME-GRDF.
Ah oui.
Et quelles sont les technologies imaginées pour les 70% restants de la réponse.
Exact, j'avais complètement occulté cette partie de la réponse. Alors l'étude, elle est disponible sur Internet, hein, si vous voulez la consulter. Je crois que dans son ensemble, elle fait 250 pages. Si vous êtes courageux, allez-y. Sinon, il y a une synthèse qui doit faire une quarantaine de pages et qui reprend l'essentiel. Alors elle date déjà un petit peu. Hein. Déjà, une première remarque, elle date de 2018. Donc elle est un peu en précurseur de ce qui s'est passé après avec le contexte Russie-Ukraine, hein, et tout ce qui en a découlé en termes d'accessibilité à l'énergie, notamment le gaz, et le cours de l'énergie aussi. Donc ça, c'est un premier point. Donc premier élément de réponse où on voit que, parce qu'on est souvent pris à défaut, on dit « ouais, on réagit une fois que c'est fait ». Non, là, pour le coup, il y avait de l'anticipation. Et dans les scénarios qui sont envisagés, la méthanisation contribue à un tiers et les 70% restants sont à peu près répartis également en tiers aussi entre la pyrogasification et le power to gas. Donc la pyrogasification sera plutôt sur des biomasses forestières, donc plutôt des procédés thermiques très haute température, 800-1200 degrés en faible présence d'oxygène, et on va produire des chars, des huiles et des syngaz. Et donc dans le syngaz, on va avoir du CO, du CO2 et un petit peu d'hydrogène. Et puis ça, on peut le recombiner avec de l'hydrogène qui va provenir de la conversion de l'électricité, parce qu'on ne sait pas la stocker sur de très longues durées et en très grande quantité. Via l'électrolyse de l'eau, on va reformer de l'hydrogène et on va pouvoir recombiner. Alors il y a de la méthanation catalytique, hein, c'est le procédé historique de Sabatier 1904, où on va recombiner CO2 et hydrogène. Puis maintenant, il y a de la méthanation biologique qui commence aussi à arriver en termes de procédé de rupture. Alors c'est peut-être un peu moins évident en termes de rendement, mais par contre, c'est moins gourmand en termes d'énergie aussi, parce que le process de Sabatier, bah, il coûte en température et en catalyseur et en pression. Donc il est peut-être un peu moins éco-friendly, mais par contre, il est avec des rendements supérieurs à ce qu'on peut faire en méthanation biologique. Donc voilà un peu les éléments de réponse que je peux apporter. C'est méthanisation un tiers, pyrogasification suivie de méthanation un tiers, et power to gas suivie de méthanation un tiers également.
Il y a une technologie aussi qui commence à croître aussi, c'est la gasification hydrothermale. Donc ça, c'est similaire à la gasification, mais c'est sous pression, en présence de vapeur d'eau, donc qui permet d'avoir des rendements intéressants en production.
Et ça, pour répondre à la question du jeune homme précédent, c'est par exemple un élément de traitement pour des boues, parce que la gasification hydrothermale, elle s'adresse plutôt à des coproduits humides. Donc là, pour le coup, les boues vont vraiment rentrer dans le scope de cette techno.
J'ai une dernière question pour vous. Vous avez parlé à de nombreuses reprises d'optimisation, d'amélioration de procédés industriels. Et j'imagine que vous connaissez l'effet rebond, c'est-à-dire des moments où des améliorations techniques, des optimisations locales amènent à des augmentations d'impact plus globales. On connaît ça dans l'automobile, par exemple, où on a aujourd'hui des moteurs plus efficients, plus performants, mais on a des voitures plus lourdes, donc au final, l'impact est plus grand. Est-ce que vous prenez en compte cet effet rebond dans les différents projets de recherche que vous menez?
Oui, alors d'où l'importance justement de travailler avec nos collègues de sciences humaines et sociales, parce que quand on fait une ACV, par exemple, on ne fait pas une ACV sur un produit, mais sur une fonction. Et donc, il faut bien définir, voilà, la voiture, on ne fait pas une ACV sur une voiture, on fait une ACV sur le fait de transporter une personne, plusieurs personnes, sur une certaine quantité de kilomètres. Et en fait, c'est important de travailler là-dessus, parce que justement, en faisant des ACV sociales ou en s'intéressant à la partie des impacts sociaux, on peut détecter ces problèmes d'effet rebond. Alors que si on s'intéresse qu'à la partie technologique, eh bien, on peut passer complètement à côté. Alors là, il y a plein d'exemples, hein, évidemment, que l'on connaît, hein, sur les effets rebonds. Et du coup, c'est hyper important, voilà, de s'en préoccuper. Donc voilà, je dirais, c'est le croisement là, des sciences économiques, sociales et technologiques, là, qui nous permet de détecter. Là, on a un projet de recherche justement avec Eudiasic, donc avec le génie informatique, sur l'utilisation de la 5G. C'est typiquement un sujet, voilà, où on peut se poser le problème de l'effet rebond, puisque la 5G, pour une même quantité de données transférées, ben, consomme moins d'énergie. Par contre, comme ça va plus vite, ben, on est tenté de l'utiliser plus. Et du coup, ben, si on met en place une technologie comme ça, il faut accompagner les utilisateurs pour qu'ils soient conscients, voilà, de cet effet rebond. Et donc, ben là, on regarde dans ce projet de recherche si on est capable d'orienter les comportements et de sensibiliser les utilisateurs pour qu'il y ait une consommation raisonnée de nos outils de tous les jours.
Merci. Merci à vous deux, Olivier et Thierry, d'avoir partagé ce midi avec nous vos projets de recherche, la manière dont ils infusent dans les enseignements à l'UTC. Merci à vous, étudiants, étudiantes et enseignants-chercheurs, d'avoir été présents ce midi pour cette dernière conférence de l'UTC à l'occasion des Journées nationales de l'ingénierie et de la Journée mondiale de l'ingénierie pour le développement durable, à retrouver sur Graphite, à la radio ou alors en podcast. Merci.
Cette conférence a été enregistrée le 7 mars 2025 à l'Université de technologie de Compiègne avec le concours de Christophe Menu pour les moyens techniques, une conférence organisée par la Direction à la transition écologique et à l'engagement sociétal de l'UTC, Valentin Legauche et Isabelle Caillou. Retrouvez ce programme à la demande sur graphite.net.